you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Philippe Chevillé et François Angelier pour parler ensemble de Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado chez Grasset, Les ombres sur la Tamise de Michael Andadjé aux éditions de L'Olivier et L'Outsider de Stephen King chez Albin Michel. Le coup de cœur ce soir, celui d'Elisabeth Philippe pour On dirait que je suis morte de Jen Biggin chez Bûcher Chastel. Et nous ouvrons cette dispute avec Un appartement sur Uranus, publié chez Grasset, livre qui regroupe les chroniques du philosophe Paul B. Preciado dans le journal Libération depuis 2013, ainsi que d'autres textes pour d'autres publications. Le B de son nom est la trace de Béatrice, son ancien prénom quand Paul était une femme. Le livre retrace donc le parcours physique, psychique, intellectuel et politique de sa transformation. On va débattre autour de ce livre, mais d'abord un premier tour de table. Une phrase pour exprimer votre sentiment qui sera développé par la suite, Elisabeth Philippe.
C'est une odyssée dopée à la testostérone qui nous confirme que les hommes ne viennent pas de Mars, pas plus que les femmes ne viennent de Vénus, mais qu'on ferait bien de tous faire un tour sur Uranus.
C'est beau. Philippe Chevillé.
C'est un recueil de chroniques brillantes, souvent, nécessaires sûrement, énervées et parfois énervantes.
François Angelier.
Bon, c'est un livre de bord intimiste, biopolitique, biopoétique, à mon avis assez excitant.
Je viens avec des nouvelles d'Uranus, qui n'est ni le royaume de Dieu, ni le cloaque, bien au contraire. On m'a assigné un sexe féminin à la naissance. On disait de moi que j'étais lesbienne. J'ai décidé de m'auto-administrer des doses régulières de testostérone. Je n'ai jamais pensé que j'étais un homme. Je n'ai jamais pensé que j'étais une femme. J'étais plusieurs. Je ne me considérais pas comme transsexuelle. J'ai voulu expérimenter avec la testostérone. J'aime sa viscosité, l'imprévisibilité des changements qu'elle entraîne, l'intensité des affects qu'elle provoque 48 heures après les prises. Et sa capacité, si les prises sont régulières, à défaire l'identité, à faire émerger des strates organiques du corps qui autrement seraient restées invisibles. Là comme ailleurs, l'essentiel, ce sont les unités de mesure, la dose, le rythme des prises, la sérialité, la cadence. Je voulais devenir méconnaissable. Je n'ai pas demandé de la testostérone aux institutions médicales comme thérapie hormonale pour soigner une dysphorie du genre. J'ai voulu fonctionner avec la testostérone, faire passer l'intensité de mon désir en connexion avec elle, multiplier mes visages en métamorphosant ma subjectivité. Fabriquer un corps qui soit une machine révolutionnaire. J'ai défait le masque de la féminité que la société avait plaqué sur mon visage, jusqu'à rendre mes documents d'identité ridicules, obsolètes. Puis sans échappatoire, j'ai accepté de m'identifier en tant que transsexuelle, en tant que malade mentale, afin que le système médico-légal puisse me reconnaître comme corps humain vivant. J'ai payé de mon corps le nom que je porte.
Ce nom, c'est Paul B. Preciado. Elisabeth Philippe, un petit portrait, bref portrait.
Oui, Paul B. Preciado, donc c'est un philosophe espagnol de 48 ans qu'on a connu, comme vous le disiez, tout d'abord sous le nom de Béatrice Preciado, puisque cet ancien élève de Derrida s'est d'abord fait connaître comme lesbienne, engagée dans les mouvements queer, et on l'a notamment remarqué au début des années 2000 avec des essais comme le Manifeste contrasexuel et surtout avec Testo Junkie. Donc on l'a entendu dans l'extrait qui a été lu, il est beaucoup question de testostérone, et dans Testo Junkie, Paul Preciado, donc à l'époque Béatrice Preciado, racontait vraiment de façon très minutieuse les effets de la testostérone qu'elle s'injectait et décrivait notamment ce qu'il nomme aussi, le régime pharmaco-pornographique, donc la façon dont nos corps sont aujourd'hui régis par les industries pharmaceutiques et pornographiques. Et on l'entend, ne serait-ce qu'avec ses mots, ses concepts, Preciado s'inscrit clairement dans le travail de Michel Foucault, enfin dans la suite du travail de Michel Foucault. Il est d'ailleurs en train d'écrire une nouvelle l'histoire de la sexualité qui promet d'être assez assez excitante. Et pour revenir à Testo Junkie, qui est vraiment l'œuvre qui a fait connaître Paul Preciado, il y évoquait notamment son histoire d'amour avec Virginie Despentes, et dans les chroniques rassemblées dans le recueil Un appartement sur Uranus, il y a un texte qui raconte leur rupture. Et malgré tout, les deux sont restés en bon terme, puisque c'est Virginie Despentes qui signe une très belle préface à ce recueil de chroniques. Et ce que je trouve, si je peux dire un premier mot sur le livre, puisque pour moi il s'agit vraiment d'un livre, ces chroniques forment un tout assez homogène et linéaire, et finalement constituent un récit, le récit donc de la transition de Béatrice vers Paul Preciado, puisque à cette époque il a augmenté les doses de testostérone, et c'est aussi c'est pas le récit seulement de sa transition, mais d'un monde en transition.
Bon, c'est un portrait avec bonus, on va dire, pour Elisabeth Philippe. Philippe Chevillier, justement, cette question du recueil de chroniques, c'est toujours une question qui se pose. Est-ce que ça fait un livre pour vous ?
Bah, ça fait toujours un livre, ça fait pas forcément une œuvre littéraire. Il est vrai que là, on est face à un propos qui est très fort, qui nous bouscule. Le style de Paul Preciado est très brillant. Il est parfois même poétique. Il y a des chroniques qui sont plus poétiques que d'autres. Néanmoins, je trouve qu'on n'échappe pas à deux éléments. D'abord, c'est quand même une chronique qui est souvent journalistique, qui est dans l'immédiateté. Donc parfois, on a quand même des chroniques qui sont un peu inégales. On sent qu'elles sont moins inspirées. J'en prends une au hasard, Marcos Forever sur le commandant Marco. Je trouve que bon, franchement, on pouvait s'en passer. Ou il y en a comme ça qui m'ont pas passionné. En revanche, il y en a d'autres comme celle qui défend l'enfant queer, ou une école pour Alan, qui sont très émouvantes. Ou même celle sur les condoms chimiques, par exemple, qui remet en cause évidemment toutes les normes un peu de la sexualité, des organes, etc. Ou Ton fauteuil me fait kiffer sur le handicap. Il y en a comme ça qui m'ont frappé. Du coup, j'avais un sentiment un peu de moments où je perdais un petit peu de l'attention. Et la deuxième chose qui me gêne un petit peu, c'est quand même si c'est très cohérent, ça y a une forme de redondance, parce qu'il y a quand même un côté répétitif, dans la mesure où à chaque fois tout doit être dans tout, dans ces éditoriaux qu'il propose chaque semaine. Et puis le côté un peu, donc, mais on en reparlera évidemment, du côté militant radical, qui est toujours un petit peu la même sauce qui nous est resservie à chaque chronique.
Alors peut-être rester un instant avant de parler de la dimension, on va dire, aussi politique de ce livre, sur cette question de la chronique, et peut-être savoir comment vous l'avez lu, François Angelier. Est-ce que un recueil de chroniques, moi j'ai souvent la mauvaise habitude peut-être d'aller piocher, de passer des pages, de revenir en arrière. Alors il y a certes une chronologie qui est une chronologie de la transition, mais qui est aussi liée à la chronologie, on va dire, politique, sociétale. Comment est-ce que vous l'avez lu, vous, ce recueil de chroniques ?
Ah, moi je l'ai lu chronologiquement, puisqu'effectivement c'est un journal intime, c'est un livre de bord, c'est le récit d'une évolution à la fois évidemment physique, intellectuelle, intérieure, sensible. Donc je pense qu'il était important de suivre le livre du début à la fin pour bien marquer les différents stades de cette transition, la manière dont elle est vécue dans la souffrance, l'euphorie, le débat critique, de manière internationale, parce que justement, Paul Preciado nous dit bien que c'est un livre écrit dans les aéroports et les hôtels, c'est un livre qui bouge tout le temps, et je le cite, je vais rester un moment au carrefour parce que le croisement est le seul endroit qui existe. Donc c'est cet effet de rocade, de mouvement permanent qui habite le livre. Donc j'ai lu ça chronologiquement, et ça permet en plus alors, c'est l'éternel problème des chroniques, parce que quand c'est comme des lettres tombées du ciel, on en reçoit une fois par mois, il y a un effet choc, comme ça, qui a tendance à s'émousser et à sombrer un petit peu dans la redondance à partir du moment où on les lit sans l'attente. Ouais. C'est un peu pareil pour les romans feuilletons. Quand on voit une série en enquillant comme ça tous les feuilletons, tous les épisodes, il y a des moments d'ennui. Là, c'est un peu le cas pour notamment les textes théoriques, qui sont des textes assez claironnants, qui sont des textes écrits à la tribune. Donc là, il y a un effet de redondance. Mais là où j'ai pas du tout senti cet effet, je dirais, de redondance, c'est plutôt dans le témoignage intime et dans, je dirais, des récits de vie. Là, par contre, c'est très beau et on passe comme ça d'un moment à l'autre avec beaucoup d'intérêt.
Cette dimension recueil de chroniques, Elisabeth Philippe.
Oui, puisque ce que je disais au départ, c'est que pour moi, ça forme un vrai récit, une sorte d'odyssée. C'est ce que je disais aussi en introduction. Ce que François a noté, c'est cette dimension de voyage qui est extrêmement importante, parce que ce qu'il faut bien préciser, c'est que Paul Preciado, ce voyage, c'est pas le voyage d'une rive à une autre. Il n'est pas passé de la féminité à la masculinité, parce que le cœur de son propos, c'est justement la lutte contre cette binarité, ce binarisme qui structure toute la pensée occidentale. Donc ça, c'est vraiment le cœur de son propos, qui est certes parfois un peu martelé, mais parce que voilà, c'est cette forme même de recueil de chroniques qui fait qu'on peut avoir des répétitions. Mais je trouve que malgré tout, certaines chroniques ont un style tout à fait différent. Il y a notamment lorsque Paul Preciado perd un de ses amis, dont le nom m'échappe à l'instant. Et là, c'est écrit dans un style tout à fait différent. Donc il y a quand même des exercices de style qui font, enfin, les formes varient. On est toujours dans cette transition aussi formelle, et je trouve que ça permet d'éviter un peu la monotonie.
Alors cette dimension politique tout de même, François Julien, puisque ces chroniques, hein, pour l'essentiel, mais pas toutes, publiées dans Libération, mais il y a aussi d'autres revues ou journaux dans lesquels Paul Preciado les a publiées, elles s'inscrivent dans le chemin de fer d'un journal, on tourne les pages, dans les différentes sections, et on tombe sur ce texte qui va résonner la plupart du temps avec le moment. Mais cette dimension-là, cette dimension politique, cette dimension militante, comment est-ce que vous la percevez dans ce recueil ?
Ben, je la perçois en permanence, parce que je pense que le but de Paul Preciado, c'est de nous montrer que tout est politique, de notre corps, de notre vie, des instants que nous partageons avec autrui, de tous les moments de notre existence, nous sommes immergés dans le politique. Et qui, en définitive, c'est ce qui est marquant, c'est cette volonté de se redéfinir jusqu'à la plus intime radicalité, qui est celle du corps. Et montrer que simplement déjà, la sexualité est politique, bon ça on le savait, mais que l'action sur sa propre sexualité doit être d'abord une action sur le corps, sur la nature du corps. Donc on baigne dans le politique. Alors la question est, comment organiser toutes ces luttes politiques ? Alors, quelle forme leur donner ? Alors il y a évidemment la réflexion intellectuelle, il y a tout ce qui est rencontres, expositions, colloques. Il y a vraiment une action intense en permanence, et je pense que la réussite, elle est là. C'est de bien montrer que tout est assigné, qu'on est en permanence dans un processus d'assignation qui vient de l'extérieur, et que si l'homme veut retrouver une liberté, eh bien il doit commencer au plus intime de son personnage.
Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait résumer un peu rapidement, un peu trop rapidement, l'idée que la culture queer, ce serait le poste d'avant-garde pour lutter contre toute forme de domination. Là, je résume vraiment à très très grands traits, parce qu'en étant non assigné, ben, on peut se... Évidemment,
oui, c'est la philosophie du Carrefour. Il montre même que l'assignation ne commence pas, mettons, avec un métier, mais simplement avec le corps lui-même. Mmh. Ça radicalise de façon extrême l'assignation et la démarche politique.
Démarche politique, est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont un peu énervé,
ah bah oui,
Philippe Chevillier?
Non, alors ce qui m'a un peu énervé, je vais vous dire, c'est que, en fait, pour un lecteur qui démarre dans le livre, d'abord cette préface qui est forte de Virginie Despentes, ensuite il y a l'introduction.
C'est longue introduction.
Longue introduction, et on a vraiment ce sentiment, et c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, que va se développer cette idée que c'est pas le passage d'un rivage à l'autre. On est vraiment dans une transition qui permet tous les possibles. Et je trouve que cette ouverture, et d'ailleurs il y a même le bandeau rouge, la révolution sexuelle, on s'attend donc à un discours qui ouvre des tas de portes, et je trouve que le discours se referme un peu dans la partie politique, qui est un discours un peu anarcho, d'extrême gauche, un peu radical, où on retrouve toujours un peu le jargon. Alors il y a le capitalisme qui est cité toutes les dealings dans certaines chroniques, et quelquefois je me dis pourquoi on se referme sur des idées un petit peu convenues. Par exemple l'idée de la convergence des luttes, certes tout opprimé a intérêt à faire tout le monde se retrouve quand on est opprimé, on remet en cause les choses et on peut faire une révolution, mais il est pas sûr que la révolution queer soit la même que la révolution des migrants. Il y a des choses, des raccourcis qui me semblent un peu qui sont un peu dans le discours convenu de la radicalité militante, et c'est ça qui m'a un petit peu agacé. Surtout que, dernière chose que je voulais ajouter, c'est qu'il me semble que dans la dimension justement et l'oppression, le côté binaire, ça date de Mathusalem. On n'a pas attendu la révolution industrielle pour qu'elle arrive. Elle y participe, mais je pense que le capitalisme pourrait presque s'arranger d'une forme de transsexualité si elle était dans un rapport d'argent, justement. Donc enfin, là je pars dans je m'envole un peu. Simplement, je trouve que simplement pour résumer, que le discours politique me déçoit, que l'utopie J'attendais plus d'utopie et je la retrouve pas. Je retrouve en revanche tout ce qu'on a dit, le parcours, l'intime, tout ça c'est formidable. Mais quand on est dans le discours politique, avec beaucoup de citations de Derrida, etc., etc., je me dis là,
on... son prof, hein, Derrida.
Je sais bien, évidemment. Oui. Hommage à Derrida.
Elisabeth Philippe.
Non, sur ce que vient de dire Philippe et notamment sur le côté qui selon lui serait un peu la tarte à la crème de la pensée queer radicale. Là où Paul Preciado se distingue de cette pensée queer, c'est que sa volonté est de sortir totalement de la logique d'identité. Et je trouve que c'est vraiment la force de son propos, c'est de dire et de marteler que il faut sortir de cette logique. Et d'ailleurs, il parle de lutte somatopolitique. C'est vraiment mettre le corps au cœur de la lutte et non plus savoir si on est homme, femme. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il précise bien qu'il n'est pas homme, mais homme trans. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante. Et vous avez souligné ce parallèle qui est fait. C'est un des leitmotifs du texte. C'est le parallèle entre son statut de clandestin du genre ou de dissident du genre et celui des migrants. Puisque la plupart de ces textes ont été écrits entre 2016 et 2018. Même 2013 et 2018, 13, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, beaucoup de textes écrits en 2015 et notamment souvent à partir d'Athènes, qui était quand même le lieu même d'arrivée d'une grande partie des migrants. Et donc, c'était un poste d'observation pour Paul Preciado idéal. Et ces parallèles entre son statut de clandestin du genre et le statut de migrant, moi, je ne trouve pas gratuit. Je ne trouve pas que ce soit simplement une façon de plaquer les concepts de convergence des luttes sur une réalité. Je trouve qu'il y a énormément de choses très justes qui sont dites sur cet espoir d'arriver à une plus grande fluidité pour le passage des frontières, que ce soit le passage des frontières physiques et le passage des frontières de genre.
François Jolier, vous avez la parole.
Oui, c'est évident, par exemple, que la question des migrants ne peut qu'intéresser Paul Preciado, puisque son but est de migrer en permanence. C'est-à-dire de dénier la notion de nationalité, d'identification. Il a dit, je ne veux pas être reconnaissable. Donc, on refuse la notion d'identité, on refuse donc cette assignation, cette localisation, cette vision topographique et cloisonnée des personnages pour être dans une migration permanente. Donc, cette idée de personnages qui ne sont plus chez eux, qui ne sont pas encore ailleurs, mais qui sont dans un état de migrants, devait évidemment être repris, là, sur le plan, je dirais, de sa réflexion. Alors, c'est une réflexion, effectivement, par moments, ça fait un peu un bruit de trousseau de clé, parce que il y a tout un vocabulaire théorique, théorico-militant, extrêmement sonore, et qu'on retrouve de chronique en chronique. Alors, il y a par moments un petit mot de tête. Mais ce que je veux dire, à partir du moment où ça engage la personnalité d'un individu dans son corps même, et avec tout ce que ça peut comporter de danger physique, à la fois sur le plan médical, sur le plan purement physiologique et sur le plan social, agression, ostracisme, marginalisation, tout ce discours nous revient comme un discours de vérité. Et là, il devient extrêmement émouvant.
Elisabeth Philippe.
Oui, non, on parle beaucoup du corps. Je voulais juste dire qu'on pourrait avoir peur, effectivement, d'emploi des termes comme pharmacopornographique, de chroniques truffées de jargon. C'est aussi des chroniques très incarnées. Encore une fois, le corps y est au cœur. Et il y a par exemple ces chroniques très intéressantes dans lesquelles il raconte ses déconvenues dans certains aéroports, notamment, je crois, en Ukraine, où effectivement, sa photo sur son passeport...
Ça n'est pas vous.
Comment prouver qu'on est soi? Enfin, ça, évidemment, ça ouvre des questions philosophiques vertigineuses, mais ce que je veux souligner, c'est que elles sont assez accessibles, ces chroniques. On pourrait avoir peur, à force de citer Derrida, Foucault, d'avoir affaire à des textes très, très compliqués, très complexes, mais justement, comme ça part toujours de l'intime et du corps, ce sont des textes.
Et écrits pour des journaux.
Ça reste très accessible.
Dans l'accessibilité, Philippe Chevillé, pardon.
Les fameuses scènes d'aéroport sont tout à fait essentiel sur le plan de la dramaturgie de Paul Preciado, c'est qu'à la fois on lui dit, mais attendez, je regarde la photo, mais ça n'est pas vous. Donc elle est désidentifiée, donc on pourrait croire qu'à ce moment-là, elle éprouve une plénitude et le sentiment d'aboutir sa tentative. Mais en définitive, non, il y a une colère. Donc elle est à la fois entre réussite et colère, c'est très très étonnant.
Philippe Chevillier.
Simplement, pour résumer, moi, je pense que le bémol que je mets, c'est effectivement ce discours parfois très éloquent, mais politique qui moi me paraît assez convenu, voilà. Mais sinon pour le reste, c'est vrai que il y a des chroniques et qui sont vraiment des chroniques coup de poing. Je pense à celle qui s'appelle La Balle, ou la balle qui touche l'enfant qui va être homosexuel ou qui va être transsexuel, ces passages-là, effectivement, rachètent pour moi toutes les tous les commandants, sous-commandants Marcos et autres
mais
des
chroniques.
Mais ça a
une importance, le sous-commandant Marcos.
Non, je sais, mais je l'ai pris comme exemple parce que voilà. Mais
puis ça a été son nom pendant une semaine. Oui. Hein.
Et puis le, moi, j'aime bien aussi quand on part dans il y a un petit côté buissonnier parfois, l'amour dans l'Anthropocène avec Philomène, avec le chien, le Candy Crush Rehab, toute réflexion sur Candy Crush. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'était assez à la fois amusant et puissant, même si c'est pas drôle sur le fond. Et puis il y a ces passages de pure poésie, cette forme de poème d'ailleurs, qui fait tes cartons ou corps mouvant, qui met le corps dans toutes les situations, dans tous les états. Et voilà, ça c'est très beau. Donc
une chronique où il y a que des nécros. Oui. Il y a nécro qui précède trois pages de mots. C'est assez étonnant, c'est presque graphique.
Allez, un dernier mot, Elisabeth Philippe.
Non, vous disiez que c'était parfois très poétique. Je crois que Paul Preciado écrit aussi un recueil de poèmes. Et pour terminer, le dernier texte du recueil, Lettre d'un homme trans à l'ancien régime sexuel, à mes yeux, c'est certainement l'un des meilleurs textes écrits dans le post-MeToo, l'immédiat après MeToo. C'est un texte essentiel. Rien que pour ça, il faut le lire Un appartement sur Uranus.
Ben voilà, vous avez la bonne conclusion. Il faut le lire, c'est un livre important pour notre époque et pour penser peut-être à un avenir quelque peu différent. Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado chez Grasset. À suivre dans la dispute, une dispute très éclectique hein, ce soir. Des fois il y a des fils rouges, des fois moins. Quoique la question de l'identité, on va voir, est au cœur du livre de Michael Andadjé. Celle de l'identité aussi. Allez, on va jouer sur les mots. Aussi avec Stephen King, donc ça marche. Et puis on verra ce qu'il en est pour votre coup de cœur, Elisabeth.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature, en nous intéressant donc à présent au nouveau roman de Michael Andadjé, Les ombres sur la Tamise, publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Petit rappel pour dire que l'écrivain est né au Sri Lanka, qu'il vit au Canada, qu'il a accédé à la célébrité mondiale avec Le patient anglais. Il y a une adaptation cinématographique de ce livre. Ce livre, lui, il avait reçu le Booker Prize en 1992. Il a eu aussi le prix Médicis étranger. En 2000, c'était pour Les fantômes d'Anil. Le point de départ de ce nouveau livre, il se révèle très bien dans ses deux premières pages. En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des criminels. Nous habitions dans une rue de Londres appelée Revenue Gardens et un matin, notre père ou notre mère, je ne sais plus, proposa que nous ayons une discussion en famille après le petit déjeuner. C'est alors qu'ils nous annoncèrent qu'ils allaient nous quitter et s'établir à Singapour pendant un an. Pas très longtemps, dirent-ils, mais ce ne serait pas non plus un court séjour. Pendant leur absence, on s'occuperait bien de nous, évidemment. Pour nous informer de la nouvelle, mon père, je m'en souviens, avait pris place sur une de ces inconfortables chaises de jardin en fer, tandis que ma mère, en robe d'été, juste derrière l'épaule de son mari, épiait notre réaction. Au bout d'un moment, elle prit la main de ma sœur Rachel dans la sienne et la serra contre sa taille, comme pour la réchauffer. Je ne dis pas un mot, Rachel non plus. Nous regardions fixement notre père, qui nous dévoilait les détails de leur vol à bord du nouvel Avro Tudor 1, descendant du bombardier Lancaster dont la vitesse de croisière dépassait les 500 km à l'heure. Il devrait se poser et changer d'appareil au moins deux fois avant d'arriver à destination. Il avait eu une promotion, expliqua-t-il, et on lui confiait la responsabilité du bureau d'Unilever en Asie. Cet avancement serait bon pour sa carrière et donc pour nous tous. Son ton était grave et à certains moments, notre mère se détourna pour contempler son jardin d'août. Lorsque mon père eut terminé, constatant mon ébahissement, elle s'approcha de moi et passa ses doigts dans mes cheveux, à la façon d'un peigne. J'avais 14 ans à l'époque et Rachel, près de 16. Durant les vacances d'été, il nous confierait à un tuteur, selon le mot qu'employait notre mère. C'était, disait-il, un collègue. Nous le connaissions déjà. Nous l'avions baptisé le papillon de nuit. Notre famille était friande de surnoms, signe qu'elle était également portée sur les déguisements. Rachel m'avait déjà fait savoir qu'elle le soupçonnait de faire carrière dans le crime. Premier tour de table rapide pour résumer vos impressions avant de le développer, dans un second temps évidemment. Philippe Chevillier.
Un grand roman brumeux, suspendu, chargé d'histoire et de sens.
Bon, François Angelier.
Ombre sur la Tamise ou quand le ministère de la peur de Fritz Lang rencontre le tour d'écrou d'Henry James.
Elisabeth Philippe.
Une plongée captivante dans les eaux troubles de l'Angleterre d'après-guerre.
Pas mal. Je pense que vous allez bientôt écrire les bandeaux sur les romans. Mais c'est bien, c'est ça que je souhaite en effet. Philippe Chevillier, alors, Michael Andadji, j'ai lu avec surprise que c'est seulement son 8e roman, me semble-t-il, bah, 70 ans bien passés. Alors, il a quand même vendu quelques millions d'exemplaires, j'imagine, dans le monde, mais il peut surprendre son lecteur. Comment est-ce qu'on qualifierait le genre de ce nouveau livre?
Alors globalement, c'est un peu c'est un grand roman néoclassique anglais d'un Canadien. Donc, mais pour moi, c'est un peu le roman suprême qui en fait croise plusieurs styles, parce qu'on a à la fois un roman initiatique, hein, on part de l'éducation de ces deux enfants qui sont mystérieusement abandonnés par leurs parents et qui vont être éduqués par une faute absolument invraisemblable, on y reviendra. Il y a côté roman noir presque fantastique parce qu'il y a vraiment du crime derrière, on est dans les brumes de la Tamise, on navigue dessus. Côté roman d'espionnage aussi qu'on va découvrir petit à petit et historique bien sûr puisque c'est la fin de la guerre et que la guerre ne finit jamais vraiment et c'est pour ça que ça se passe pas très bien toujours après. Et puis aussi c'est un roman sur la littérature parce que on constate au fur et à mesure du livre comment la fiction peut se nourrir de réel, comment l'écrivain lui-même joue aux agents secrets pour un peu percer l'âme de ses personnages, pour les mettre en scène en collectant plein d'informations. C'est vraiment passionnant. Donc c'est un roman multiple, roman suprême.
Elisabeth Philippe, sur le style peut-être et sur la façon dont Michael Andadji nous raconte le Londres d'après-guerre, mais aussi le Suffolk, comment elle s'y prend?
Alors, ce qui est formidable, c'est que Andadji nous décrit un Londres souterrain, obscur, encore marqué par le Blitz, hanté par les spectres de la guerre. Donc, c'est très brumeux. On s'aventure beaucoup dans les méandres de la Tamise, ces canaux cachés. Ça pourrait paraître nébuleux, sauf que la langue de Michael Andadji est d'une précision, d'une clarté, d'une élégance absolue. Moi, je comprends qu'il prenne son temps pour écrire chacun de ses livres, parce que pour arriver à ce niveau de maîtrise et de c'est ciselé, chaque phrase est absolument parfaite. C'est un plaisir de se perdre avec lui dans ce Londres un peu malfamé, avec ses marchands des quatre saisons, auquel rend souvent visite le papillon de nuit, le mystérieux tuteur des deux adolescents. Et puis il y a ce motif de l'enfumoir de l'apiculteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs reprises il est question d'un enfumoir et Andadji, à sa manière, nous enfume aussi, mais avec une élégance et encore une fois cette prose d'une clarté remarquable. Et je trouve que toute l'atmosphère qu'il arrive à créer avec à la fois cette écriture, cette toile de fond, ce décor d'un Londres brumeux, envahi par le fog, absolument. Enfin, c'est la toile de fond idéale pour cette histoire dans laquelle gravitent des personnages tout à fait nébuleux et obscurs aussi.
Alors, je le disais tout à l'heure, question d'identité aussi. Dans ce livre de Michael Andadji, la figure de la mère va être extrêmement importante. La figure, son histoire, sa disparition ou non-disparition, sont-ils loin, ne sont-ils pas loin? Ces parents-là, et puis qui sont-ils? Quels sont les métiers des uns et des autres? Enfin, il y a tellement de mystères. Alors là, rentrons... vraiment dans le commentaire, François Angelier. Par quel bout est-ce qu'il vous a attrapé, ce livre-là? Parce que je sais qu'il vous a beaucoup plu.
C'est un livre que j'ai adoré, d'autant plus que je ne suis pas du tout un familier de la littérature de Michael Ondaatje. Et alors déjà, le titre « Ombre sur la Tamise », oui, ça résume à peu près tout ce que j'aime dans la vie. Et la couverture est magnifique. Enfin, je vais commencer à faire chanter la gloire de l'éditeur. Non, je veux dire, tout simplement, on trouve là architecturé de manière parfaite, et extrêmement efficace sur le plan romanesque, tout un tas de notions d'univers fort du roman, de la littérature anglaise. D'abord, il y a le côté dickensien, avec ses deux enfants très jeunes, qui sont rejetés, enfin, qui sont laissés par leurs parents, dans cette espèce de Londres d'après-guerre. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Toutes les capitales européennes d'après la guerre sont bien évidemment idéales pour mettre en scène, justement, après la guerre, c'est-à-dire des moments où les choses ne se sont pas encore refaites.
Ça n'est pas très net.
On est en pleine reconstruction, à la fois sociale, psychologique et environnementale, architecturale. Donc, ce sont des milieux où tout est possible, là aussi des milieux de carrefour. Donc déjà, il y a tout cet univers-là. C'est celui du Fleischer, de l'étrangleur d'Irlington Place, des films de Jules Dassin ou de Carol Reed. Ça, c'est très très fort. Il y a tous ces enfants donc, que leurs parents confient à des personnages singuliers. Là, on est en plein dans un univers un peu néo-dickensien, puisqu'ils vont échapper très rapidement à la tutelle de la bonne société anglaise en pleine reconstruction. C'est-à-dire, non pas être éduqués par des professeurs, des instituteurs ou des gouvernements, mais par des personnages bizarres. Alors le dard de Pimlico, alors le nom est génial, le dard de Pimlico, qui est un ancien boxeur. Il y a le papillon de nuit, dont le nom dit assez les activités interlopes, marginales et fort peu repérables qu'il mène. On est emmené dans des univers qui sont par exemple le trafic de lévriers, dont j'ignorais tout, je vous rassure tout de suite. L'univers des trafiquants qui circulent sur des barges tout au long
de la Tamise.
Ça dépend de la
Tamise, il vaut mieux qu'il y ait du brouillard.
Avec Yann Sinclair, un peu psychologique. Géographie, on ne sait pas très bien où on est. Il y a une description fantastique de la Tamise, donc il y a tout cet aspect-là. Et puis, en plus, à partir de là, il y a la vraie histoire. C'est-à-dire, maman, où es-tu? Maman, qui es-tu? Le père est évacué assez rapidement. Effectivement, cette mère, qui au départ est un petit peu comme un personnage émouvant, affectueux, devient de plus en plus inquiétante au fil du roman. Et donc, effectivement, c'est un grand roman sur la mère.
Elisabeth Philippe, pour prolonger votre sentiment de lecture.
C'est un grand roman en fait qui est entièrement régi par le principe d'incertitude. Rien n'est sûr, pas même le pire. Et non, ce qui m'a frappé, puisque c'est vraiment Philippe le disait, donc il y a plusieurs genres qui se croisent dans ce livre. Vraiment, c'est un roman total en ce sens-là. Et c'est notamment un roman de formation, un roman d'initiation, donc celui du narrateur, mu par la quête de cette mère. Et c'est une enquête donc sur cette mère et une enquête sur lui. Et ça m'a rappelé, mais vraiment, parce que la première phrase.
Elle
est absolument géniale, on peut la relire. En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des criminels. Si on n'a pas envie de poursuivre sa lecture après ça, tout est dans le peut-être. Et je ne sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé mais très très fortement un autre roman d'initiation paru il y a peu de temps également aux éditions de l'Olivier, qui est Canada de Richard Ford, qui s'ouvrait sur cette phrase « D'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis, ensuite les meurtres qui se sont produits plus tard. » Alors vraiment, il y a eu un télescopage entre...
Course folle en voiture, me semble-t-il, après dans Canada.
Et j'aime beaucoup ce roman d'initiation dans lequel, encore une fois, les repères sont complètement brouillés parce que ce ne sont plus les adultes et les parents qui vont pouvoir guider les enfants et les aider à se former, à entrer à leur tour dans l'âge adulte, mais les enfants ne vont devoir compter que sur eux-mêmes, finalement.
Philippe Chevillier.
Oui, alors ce qui est aussi remarquable dans le roman, c'est qu'il y a quand même deux parties distinctes. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui est cette partie noyée dans les brumes et dans l'incertitude, où on a une incroyable liberté des personnages. Tout peut arriver. Il leur arrive d'ailleurs des aventures qui sont d'ordre sexuel pour l'un. L'autre, elle va faire du théâtre. Et on voit des personnages qui apparaissent, qui nous paraissent pas importants sur le coup, et puis qui vont le devenir de plus en plus. Et dans une deuxième partie, c'est plus sur la quête de la mer. Et là, on revient vers quelque chose, disons, peut-être d'un peu plus classique ou de plus roman d'espionnage. Mais néanmoins, ça ne lève pas tous les doutes. Effectivement, on reste dans l'incertitude. Mais les deux parties, l'une qui est plus libre, plus féerique d'une certaine façon, et l'autre qui est plus âpre, plus dure, plus sur l'histoire et plus sur la mélancolie encore, s'emboîtent parfaitement. Et donc, c'est d'une richesse infinie, ce roman.
Alors, la richesse infinie aussi, on la doit à Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Ils sont à deux pour cette traduction. Ils ne sont pas pour rien dans le plaisir que nous, on a. Parce que je me posais la question. question, il faudrait que je puisse trouver le texte original, parce qu'il y a une idée que j'aime infiniment dans celui-là, c'est la question de la perspective du toit disparu, que cette façon dont on peut prendre de la hauteur pour avoir la ligne de visée. Donc je ne sais pas quelle est l'expression anglaise, mais il me semble aussi que quand même la langue française qui nous arrive là, alors certes, elle doit beaucoup à Michael Ondaatje, forcément, mais il me semble que le travail de traduction est ici à souligner une nouvelle fois. Mais on en revient donc, oui, à cette question, quand on dit roman d'initiation, c'est qu'est-ce que c'est qu'une famille, hein, qu'est-ce qui forme une famille, qu'est-ce qui est imposé par cette famille, de quelle généalogie on vient, et donc c'est quand même toute cette question de l'archéologie familiale. Il y a beaucoup de choses qui sont, on l'a dit, secrètes, enterrées, et puis il y a aussi ces familles qu'on se choisit, et ils ont le choix, hein, parce qu'ils en rencontrent quand même drôle de monde. Vous vouliez intervenir, Philippe
Chevalier. Oui, mais sur la mer, il y a un côté, par moment, on pense que ça va être Médée, et d'autres moments, c'est la Louve qui au contraire protège ses enfants, donc il y a cette ambiguïté. Et puis il y a moi un personnage que j'adore, qui je suis sûr qu'Elisabeth vous l'aimez aussi, c'est Olive, qui est le personnage qui est une mère de substitution, et qui est un personnage qui, justement, un de ces personnages qui apparaît comme ça, on se dit une femme qui passe avec le dard et avec le papillon de nuit, juste, et en fait qui prend de l'importance, et qui a un charme, c'est presque Mary Poppins d'une certaine façon. Ouais. Et c'est la facilité avec laquelle il crée des personnages avec peu de choses, mais voilà.
Philippe Jolie a eu clair en vous.
Oui, j'aime aussi beaucoup le personnage d'Agnès, dont on a parlé, qui est un très très beau personnage. Non, il y a un tel foisonnement, c'est pas un très très gros roman, mais c'est d'une richesse, encore une fois, vraiment une richesse folle. Toutes ces scènes merveilleuses aussi, puisqu'à un moment, le narrateur travaille dans un hôtel, alors on a presque des images de Grand Budapest Hotel, avec ces statues, à un moment, toutes ces statues qui remontent de la cave, qui ont été stockées dans les caves de l'hôtel pendant la guerre, et lui, il travaille comme liftier dans l'ascenseur, et donc il accompagne toutes ces statues qui remontent du sous-sol. Et je trouve ça merveilleux, ça prend 2-3 pages, et des scènes comme ça, il y en a toutes les pages, toutes les lignes, c'est merveilleux.
Allez, un dernier mot, François Angelier.
Oui, puis c'est un univers totalement truqué, on ne sait pas à quoi servent les bâtiments, à quoi servent les lacs, enfin les étangs, à quoi servent les ruines. Est-ce que ce sont simplement des lieux, je dirais, un peu abandonnés, ou des lieux qui ont un usage strictement utilitaire, ou est-ce que c'est un simple décor pour des activités de service secret? Et ça aussi, là il y a une habileté chez Ondaatje à tirer les ficelles et à transformer un roman d'initiation sentimentale et mélancolique, un peu modianesque d'ailleurs, en thriller historique et absolument diabolique.
Bon, ben voilà, si avec tout ça vous n'avez pas envie de lire Les Ombres sur la Tamise de Michael Ondaatje, il est donc publié aux éditions de L'Olivier dans une traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Un coup de cœur d'Elisabeth Philippe ce soir pour un livre que Philippe Chevillier avait d'ailleurs proposé précédemment au programme de cette dispute. On en avait finalement choisi un autre, mais pour dire que vous partagez vraiment.
C'est un coup de cœur partagé.
Tellement d'affinités. Le livre s'appelle On dirait que je suis morte. Il est de Jen Biggin. Il est publié chez Buchet-Chastel. De quoi s'agit-il?
Et il est traduit par Céline Leroy.
Qu'on connaît bien et qu'on apprécie.
Il s'agit donc du premier roman de cette autrice américaine, Jen Biggin, et c'est un roman en partie inspiré de sa propre vie et de son expérience de femme de ménage, un métier qu'elle a exercé pendant plusieurs années et qu'exerce également son héroïne, Mona. Donc Mona a 24 ans et en fait elle semble avoir érigé le ratage au rang d'art. L'échec lui tient vraiment lieu d'éthique et d'esthétique. Mona vit dans un bled totalement paumé du Massachusetts. Elle aime se prendre en photo dans les maisons qu'elle récure avec soin. Ou alors elle y laisse des petits mots dans les recoins. Elle considère que le décap four c'est sa drogue favorite, et elle collectionne les aspirateurs. Son préféré s'appelle Gertrude. Et le soir, Mona est bénévole dans une association qui distribue des seringues à des toxicomanes. Et c'est là qu'elle rencontre un beau jour Monsieur Dégoûtant, déjà tout un programme, accro à peu près à tout ce qui s'injecte et au sourire plus ravagé que ravageur, puisqu'il n'a plus de dents. Mais ça ne n'empêche pas Mona de tomber amoureuse de ce monsieur dégoûtant. Tant pis s'il est édenté, puis tant pis aussi si un jour il manque de la tuer en lui faisant essayer du speedball. Mona finit quand même par partir et là ça se, le livre se transforme en odyssée aussi, en road trip, et elle atterrit au Nouveau-Mexique. Alors là, elle habite à côté de voisins totalement perchés qu'elle appelle Yoko et Yoko, un peu new age. Elle travaille pour une femme médium qui vit dans une caravane entourée de chats et de poupées assez terrifiantes. Et en fait, il se passe pas grand chose. Oui, il se passe énormément de choses.
Ce que vous nous avez dit, il se passe beaucoup de choses.
Non, mais la vie de Mona, il se passe pas grand chose. Si, bien sûr, c'est un roman d'aventure, mais un roman d'aventure raté aussi, et totalement absurde, extrêmement drôle, désenchanté. Je sais pas vraiment à quoi tient le charme de ce livre, mais il en est bourré. Et c'est un peu, il se situe entre, vous vous souvenez, on en avait parlé ici aussi, le manuel à l'usage des femmes bien de sûr. Ménage. Là, le lien est évident, de Lucia Berlin. Et puis, je trouve qu'il y a un côté aussi très David Foster Wallace dans la façon de parler de l'ennui, de parler des addictions, qui est un des thèmes centrales du livre. Et puis de parler de notre époque à travers ce personnage extrêmement attachant qu'est Mona, et dans une langue qui réserve et ménage des surprises à peu près à chaque phrase.
Bah ça en fait des raisons de le lire, vous partagez totalement, Philippe Chevillier.
Totalement, il y a vraiment un charme incroyable dans ce roman. Et surtout, toute la partie El Paso aussi, où il y a un côté errance, on ne sait vraiment pas où elle va arriver, où elle va aller, mais c'est vraiment très, très prenant et... très étonnant.
Bon, bah, vous nous donnez envie de lire ce livre qui s'appelle « On dirait que je suis morte » de Jen Biggin, publié chez Buchet Chastel dans une traduction de Céline Leroy.
France Culture, La Dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire ce soir, c'est L'Outsider de Stephen King, publié chez Albin Michel dans une traduction de Jean Hesch. Ça fait 45 ans qu'il a publié son premier roman, Stephen King. Presque inutile de présenter quand même l'écrivain américain. J'ai lu qu'on estimait les ventes de ses livres à 350 millions d'exemplaires dans le monde. Bon, 45 ans, et puis il a beaucoup écrit. Hein. Une renommée, là aussi, amplifiée par une quantité absolument invraisemblable d'adaptations, que ce soit au cinéma ou alors plus récemment à la télévision. Ça commence quand même par Carrie. Brian de Palma, dès 77. Il y a Shining, Kubrick, il y a Dead Zone de Cronenberg, il y a Christine de John Carpenter, enfin, ça commence quand même par du très très lourd. Il y aura d'autres films tout à fait honorables, Stand By Me ou Misery, Rob Reiner, deux fois, La Ligne Verte, Frank Darabont, beaucoup d'autres. Cimetière, qui avait déjà été adapté il y a 30 ans, vient de sortir dans une nouvelle version ce mercredi sur les écrans français. J'avoue, je vous êtes risqué, vous, à voir Cimetière
pas
à nouveau
encore.
Non, pas encore, François Angelier, bon, mais...
C'est imminent.
On ira voir ça. Tout ça ne nous dit pas ce que vaut le nouveau Stephen King, dont l'adaptation en série est déjà sur les rails. Il s'appelle donc L'Outsider. Phrase d'accroche pour résumer vos impressions, François Angelier.
L'homme en creux est de retour.
ça laisse planer le mystère, Elisabeth Philippe.
L'histoire du petit Grégory racontée par quelqu'un qui aurait peut-être un peu trop regardé la série True Detective.
Ouais, Philippe Chevillier.
Un gros thriller fantastique haletant, une fable aussi sur les fantasmes violents de l'Amérique, qui a fini par me faire peur.
Bon, alors avant d'entendre une lecture effective comme la première par Joséphine Dumoulin de ce livre, qui ne se situe pas tout à fait aux premières pages, c'est pour ça que je vais demander quand même à Philippe Chevillier le point de départ vraiment de ce livre-là, le tout début.
Parce que vous savez que j'aime bien raconter les livres en entier, mais là, c'est
alors,
pas possible.
Alors attendez, je vous préviens, j'ai mon exemplaire, alors je vous montre quand même quelque chose. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il me manque 50 pages à lire. J'ai lu jusqu'à 7h moins le quart, mais il me manque 50 pages. Donc j'aime autant vous dire que si vous divulgâchez trop...
Non, je dirais juste le début.
Attention, le début là pour l'instant.
Donc il y a un crime atroce qui est commis, un enfant massacré, violé, sodomisé par une branche d'arbre, qui est retrouvé dans un sous-bois d'un parc de Flint City, Oklahoma. Et l'assassin est tout trouvé dès les premières pages. C'est l'entraîneur, le sympathique entraîneur de l'équipe de baseball, Terry Matland, marié, deux enfants. C'est tellement évident, il y a toutes les preuves, les témoignages, l'ADN, etc., qui va être arrêté tout de suite devant tout le monde. Et évidemment, avec un livre qui s'appelle L'Outsider, avec cette arrestation brutale dès les premières pages, on se dit ah ben ça peut quand même pas être lui. Donc on pense qu'on est dans un thriller, d'autant qu'il y a vraiment un thriller presque judiciaire, puisqu'on a un juge, enfin un procureur, on a un avocat, et finalement, pour quelqu'un qui ne serait pas habitué à la lecture de Stephen King, ce qui est un petit peu mon cas, on se dit, ben voilà, on est parti pour un polar tranquille, et non.
Ralph arriva chez lui à 22h45 ce samedi soir. Il commanda l'ouverture de la porte du garage, pénétra à l'intérieur et appuya de nouveau sur la télécommande. La porte, obéissante, se referma dans un bruit de ferraille. Au moins une chose qui fonctionnait de manière sensée et normale dans ce monde. Appuyé sur le bouton A, et si les piles du boîtier B sont relativement récentes, la porte C s'ouvrira et se refermera. Il coupa le moteur, puis resta assis dans le noir. Il tapotait le volant avec son alliance. La porte de communication s'ouvrit et Jeannette apparut, enveloppée dans sa robe de chambre. Dans la lumière de la cuisine, il remarqua qu'elle portait les pantoufles lapin qu'il lui avait offertes à l'occasion de son dernier anniversaire, pour plaisanter. Le véritable cadeau était un voyage à Key West, rien que tous les deux, et ils avaient passé un séjour merveilleux, devenu un vestige flou dans son esprit, comme toutes les vacances, des souvenirs qui n'avaient pas plus de substance que le goût de la barbe à papa. Les pantoufles, elles, avaient duré. Ces pantoufles roses, achetées au magasin tout à un dollar, avec leurs petits yeux ridicules et leurs grandes oreilles pendantes. En les voyant aux pieds de sa femme, il sentit des picotements dans ses yeux. Il avait l'impression d'avoir vieilli de 20 ans depuis qu'il avait pénétré dans la clairière de Fegues Park et découvert le corps meurtri, ensanglanté, d'un petit garçon qui idolâtrait sans doute Batman et Superman. Il descendit de voiture et serra Jeannette dans ses bras, de toutes ses forces, en appuyant sa joue râpeuse contre celle de sa femme, si douce, sans rien dire, concentrée pour retenir les larmes sur le point de jaillir.
Ralph, l'enquêteur, on va dire principal, un des premiers à soupçonner et même à établir hein, que le coupable est bien le coupable, il y a tellement de preuves qui s'accumulent. Bon, François Angeli, alors plus familier sans doute que Philippe Chevrier de la lecture de Stephen King, et puis c'est vous qui l'avez proposé à ce programme. On sait qu'il écrit dans des registres assez différents, Stephen King. Qu'en est-il cette fois-ci ?
Alors oui, il y a des registres différents. La preuve en est, dont le précédent livre qu'on a pu lire, Anatomie de l'horreur, était une sorte d'autobiographie intellectuelle, d'histoire de ce qui est pour lui les classiques au cinéma et en littérature de l'horreur. Donc c'est maître, d'une certaine façon, donc une réflexion un peu historique et personnelle, comme avait fait Lovecraft avec Épouvante et Surnaturel en littérature de ce même type. Avant, il y a eu la trilogie dont un personnage réapparaît ici et qui évoquait Brian Hodges, Monsieur Mercedes et autres. Et puis ensuite, une dystopie féministe, Sleeping Beauties, récemment. Donc il peut évoluer King dans tous les genres. Là, on est dans le genre, je dirais, le plus traditionnel. C'est un roman qui a été impulsé, on peut le dire, par l'idée du double, par la lecture de William Wilson d'Edgar Poe, l'histoire de cette...
qui est cité plusieurs fois dans le roman.
Voilà, qui voit arriver un double.
Un autre...
Voilà, et ce double finit par le tuer. Et là, donc, on a à peu près exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est effectivement à Flint City, dans l'Oklahoma. On est coincé entre le Walmart, le Home Depot, le Burger et tout. Donc, il ne se passe absolument rien. Mais il se passe à ce point rien que ça finit par en être totalement bizarre. Et arrive ce crime qui déchire complètement le tissu social de cette communauté. La mort de cet enfant qui a été résumé. Et le vrai crime, il y en a un deuxième, c'est que Terry Maitland, qui est l'entraîneur de tous les enfants de la contrée en baseball, est arrêté publiquement pendant un match. Donc là, véritablement, ça,
une demi-finale très importante du
championnat. C'est un fait qui a une valeur sociale, je dirais presque sacrée, du sacré social américain, terrible. Et ça, c'est ce qui va culpabiliser l'enquêteur d'âme dont vous parliez. Ouais. Et après, quelque chose se met en route, puisqu'on aboutit à une impossibilité logique, c'est que ce même Maitland, qui au même moment était présent, donc qui était censé assassiner cet enfant à Flint City.
Que tout le monde a vu, croisé.
Que tout le monde a reconnu. Alors que ce soit un taxi, que ce soit un videur dans une boîte de nuit, tout le monde l'a reconnu. Au même moment, il était à quelques centaines de kilomètres dans une signature d'Harlan Coben. Alors, clin d'œil de Stephen King à son vieux collègue Harlan Coben. Et donc, il y a une impossibilité. Et première impossibilité, un deuxième crime du même type va se poursuivre. Et là, on en arrive à cette question, c'est que face à cette... Soit on refuse absolument cette situation, soit on tente de l'affronter, mais on tente de l'affronter avec les armes d'un flic de l'Oklahoma, c'est-à-dire totalement désarmé. Puisque on parlait d'Andagé, toute la littérature anglaise nous a légué tout un tas de détectives de l'impossible qui ont des dossiers à n'en plus finir, des Sherlock Holmes du surnaturel. Là, ils sont tout seuls, un groupe de gens, le procureur, un avocat, le flic, une enquêteuse qui revient d'ailleurs d'un précédent roman, et ils tentent de construire une explication la plus cohérente, la plus logique possible, à partir de faits qui n'en ont aucune. Et c'est très intéressant de voir comment, quelles armes on mobilise et comment on travaille intellectuellement et psychologiquement pour affronter une impossibilité dans un milieu où, effectivement, on n'a aucune capacité à le faire.
Oui, beaucoup de références à la littérature, pas seulement à Aaron Coben et à Edgar Poe, mais pour citer, vous citiez Conan Doyle et qui fait dire à Sherlock Holmes, c'est dans le livre, une fois que vous avez éliminé le possible, ce qui reste aussi improbable que cela puisse paraître, ça doit être la vérité. Et Ralph, lui, réfléchit et repense à cette phrase en disant, on peut l'adapter une fois que vous avez éliminé le naturel, ce qui reste est forcément surnaturel. Impression de lecture, Elisabeth Philippe ?
Oui, pour moi, le véritable suspense en fait, de ce livre, c'est pas tant de savoir qui est le meurtrier, mais qui est l'auteur du livre. Tant pour moi, je trouve qu'il y a une dimension parodique dans ce texte. Vous l'avez dit, il y a ce clin d'œil à Harlan Coben, il y a d'autres clins d'œil plus tard dans le texte à l'adaptation soi-disant ratée de Shining. Ouais. Et on sait que Stephen King n'aimait pas du tout cette adaptation, il le redisait dans une interview à Playboy il y a quelques années. Il y a toutes ces citations. On a aussi tous ces hommages au maître.
Agatha Christie,
Conan Doyle, Edgar Poe, évidemment. Alors, on n'est quand même pas au niveau de William Wilson, hein, qui est certainement une des plus grandes histoires de Poe. Tous ces clins d'œil-là m'ont fait penser, est-ce qu'il se moquerait pas un petit peu de nous, Stephen King, cette fois? Est-ce qu'il n'a pas eu envie de s'amuser, même son... Sans divulgâcher, il y a des créatures qui sont censées être terrifiantes et qui sont plutôt grotesques.
Lesquelles ?
C'est compliqué.
C'est compliqué évidemment de rentrer dans les détails, mais
on les trouve grotesques et on pense que c'est une plaisanterie, peut-être que
une créature terrifiante qui dit à sa victime maintenant va te laver, tu pues. Je sais pas, je la trouve assez comique, mais ce qui est pas forcément déplaisant, hein, ce côté comique, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir un sous-texte un peu parodique dans ce roman.
Ça fait partie des stratégies de King. Vous prenez ça, qui sont considérés comme son chef-d'œuvre. Bon, vous avez ce gros clown avec ses ballons, est totalement pathétique, amusant, ridicule, et en même temps effroyable. Et King aime bien multiplier des personnages dérisoires, grotesques, pompeux. Mais son talent, c'est justement derrière un détail, une remarque, une phrase, et le personnage devient très inquiétant.
Le problème, c'est que là, je trouve qu'à aucun moment, c'est véritablement effroyable, parce que ce roman s'étire. Il y a une mise en place extrêmement longue de l'intrigue, avant qu'on bascule dans le surnaturel. Même si au départ, moi j'avoue que c'est cette profusion de témoignages, là aussi, qui sont souvent assez drôles. On sent que le flic, parfois, en a marre, parce que les gens en profitent pour raconter leur vie, quand ils ont promené leur chien, etc. Donc ça, c'est assez drôle. Mais après, on part dans des tunnels de dialogue. Les scènes se répètent auquel on n'aurait vraiment pas compris. Ah bah oui, c'est vraiment impossible. Il était vraiment à deux endroits différents. Et c'est redit.
C'est vrai qu'il y a une...
Donc là, ça, pour moi, ça a été quand même un frein à la lecture.
On n'a pas encore entendu Philippe Chevillier parler de ce roman de Stephen King.
Oui, à part raconter l'horrible meurtre.
Ouais.
Donc... Non, moi je me suis quand même fait avoir à peu près tout du long, c'est-à-dire que ça se lit très bien, et que on commence quand même, moi j'ai quand même eu la trouille à la fin quand on commence à verser dans le fantastique. Je trouve qu'il y a quand même une belle exploitation des mythes de l'horreur enfantine, ça. Bon voilà. Donc là on est dans le classique, ce qui est effectivement très sensible pour quelqu'un qui est pas habitué peut-être à lire Stephen King. Enfin moi ce qui m'a marqué beaucoup, c'était cette volonté très appuyée d'être le plus hyper réaliste possible pour essayer de faire passer le message que l'irrationnel, on pouvait à un moment donné basculer dedans, qu'on pouvait y croire. Et c'est vrai que cet effort pour faire en sorte notamment que le personnage principal de l'inspecteur Ralph, qui est le flic de l'Oklahoma, verse dans le surnaturel pour pouvoir résoudre en fait le crime et arrêter le criminel, ça prend pas mal de temps. Mmh, et, oui, et parfois c'est un petit peu maladroit parce que c'est un petit peu appuyé. Au fond, par moment, je me disais, à partir du moment où on sait qu'on est tombé dans le fantastique, il n'y a peut-être pas besoin de tant de précautions, on y va et puis voilà. Donc il y a cette dimension-là, mais qui en même temps, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de certains passages. On voit comment les personnages basculent dans le surnaturel. Moi, je n'ai pas détesté.
Alors, moi, je ne suis pas très familier des livres de Stephen King. Chaque fois qu'il y en a un nouveau, je me dis, ah tiens, je vais le lire. Et puis je me dis, je vais le lire l'été prochain. Puis l'été, on lit les livres de la rentrée. Donc ça n'arrive jamais. Donc là, je suis ravi. Et encore une fois, il me manque 50 pages que je finirai tout à l'heure. J'espère bien. Moi, j'étais plutôt surpris agréablement par les personnages féminins que j'ai trouvé quand même... plus intéressant, que ce soit la femme de Ralph, que ce soit cette détective dont vous parliez qui arrive assez tard dans le livre, ou même la femme de ce pauvre assassin désigné au début du livre. J'ai trouvé qu'il y avait quand même au niveau ressort dramaturgique, elles sont quand même vraiment moteurs et intéressantes, ces femmes-là. Est-ce que c'est habituel chez Stephen King,
François? Ah oui, absolument, mais sur ce plan-là, c'est pas du tout un auteur sexiste qui confine la femme au tremblement et au cri. Il n'y a pas de screaming queen à côté, puis à côté, le robuste enquêteur qui voit tout de suite où il faut aller. Non, non. Il y a là, et on voit très bien dans Outsider, là, je dirais, les capacités sont réparties entre les différents personnages, notamment avec le personnage de Ovi, l'enquêteuse, qui a quand même affronté à main nue cette petite femme rougissante, des personnages autrement redoutables. Et on parlait du surnaturel. Moi, j'avoue que les moments qui m'ont le plus, je sais pas, mon premier King, donc je connais les ficelles du maître, c'est les moments où il se passe rien. L'enquêteur, et à un moment, il y a un enfant qui va récupérer des bidons de lait dans une grange oubliée. Ouais. À un moment, il y a l'enquêteur qui a vaguement rendez-vous dans une sorte de gare de marchandises désaffectée. Alors, ils sont là, il se passe rien, ils se demandent si, en définitive, ils ont raison d'être là, à quoi ça sert. Et c'est là où King commence à introduire une espèce de vibrato angoissant et inquiétant, et transforme, des lieux désaffectés, des lieux oubliés en château de la terreur. Quoi. C'est ça qui est très fort.
L'Outsider, c'est le titre de ce nouveau roman de Stephen King, paru chez Albin Michel dans une traduction de Jean Hesch. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin, qu'on a beaucoup entendu ce soir, très bien, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, avant de nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: dans lequel de ses courts-métrages documentaires Richard Billingham met-il en scène l'addiction de son frère aux jeux vidéo? Et la réponse était PlayStation.
On va parler de son film Ray Lee, sorti hier, on en parlera évidemment demain dans la dispute. Ce soir, des invitations à gagner pour un spectacle, c'est Goat de Ben Duke avec le ballet Rambert. Place à gagner pour mardi 16 avril à 20h, c'était au Théâtre des Abbesses, Théâtre de la Ville, à Paris. Quelle est la question?
À quelle chanteuse le spectacle Goat, justement, rend-il hommage?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, à la prise de son Florent Bujon, réalisation Alexandre Fougeron. Information à retrouver sur notre page La Dispute, sur le site franceculture.fr. On se retrouve demain donc à 19h en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute cinéma. Nous serons avec Corinne Rondeau, Thierry Chaise et Antoine Guillot. Nous parlerons donc de Ray Lee de Richard Billingham, mais aussi de Genèse de Philippe Le Sage, de Blanche comme neige d'Anne Fontaine. Il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang qui ressort en version restaurée.